Bonjour David, bonjour à tous. Le gouvernement de Michel Barnier est donc tombé par le biais d'une motion de censure vont voter à l'Assemblée. L'analyse du politologue poitevin Dominique Breillat à suivre dans un instant. Les fonctionnaires appelés à faire grève pour la défense des services publics. En Deux-Sèvres, deux manifestations se déroulent à Thouars et Niort en ce moment. L'agglo de Bay revisite son PLUI pour tenir compte des zones établies pour le développement des énergies renouvelables. Les collégiens de François Lassize à Cerisay ont découvert la pièce Djihad d'Ismaël Saïdi mardi dernier. À suivre dans ce journal le reportage de Jacqueline Pinon. C'est la période des marchés de Noël. Celui de Thouars se tient ce week-end. Et puis, les meilleurs joueurs français et internationaux en paratennis cette fin de semaine et week-end à Bressuire à l'occasion du 3e tournoi organisé par le TCB. Quant à la météo, cet après-midi, elle sera nuageuse, pluvieuse et venteuse. 331 députés de gauche et du Rassemblement national ont donc censuré le gouvernement de Michel Barnier hier. Une situation quasi inédite sous la 5e République, conséquence de l'emploi du 49-3 en début de semaine pour faire passer le budget de la sécurité sociale. La censure du gouvernement ouvre une nouvelle période d'instabilité politique majeure dans le pays, 6 mois après la dissolution de l'Assemblée nationale. Écoutez l'analyse du politologue poitevin Dominique Breillat.
Notre système politique est un petit peu à bout de souffle. Il faudrait sans doute réviser la Constitution, peut-être avec un système comme le système allemand du vote de défiance constructif, c'est-à-dire où on ne peut renverser un gouvernement qu'en élisant un nouveau Premier ministre, si vous voulez. Mais là, réviser la Constitution, c'est une tâche qui actuellement semble impossible.
Cette situation, M. Breillat, peut-elle avoir des incidences sur le quotidien des Français ?
Théoriquement, si il y a le vote de cette loi d'urgence, on revient à une situation qui, en fait, aboutirait à des augmentations d'impôts, qui aboutirait à un certain nombre de mesures qui étaient en effet défavorables pour une partie de la population.
Vous nous rappelez ce qu'est cette loi d'urgence ?
C'est la possibilité, ça avait été fait en 1979 lorsque le Conseil constitutionnel avait annulé la loi de finances, c'est-à-dire une loi qui peut être votée pour que finalement la vie puisse continuer, que les fonctionnaires puissent être payés, etc. Faut en effet que cela se fasse le plus vite possible.
Le politologue poitevin Dominique Breillat, je vous rappelle que Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision ce soir à 20h depuis l'Élysée. Une intersyndicale de la fonction publique a décidé donc d'une mobilisation ce jeudi. Force ouvrière, CFDT, CGT, la FSU et Solidaires appellent à faire grève pour la défense du service public dans sa globalité. De nombreux secteurs sont mobilisés, notamment au sein de l'éducation où les griefs sont nombreux, comme nous l'a indiqué Julie Coupry, une des secrétaires départementales du syndicat FSU-SNUPP des Deux-Sèvres, le principal syndicat des professeurs des écoles.
Il y en a plusieurs, alors à commencer par les dernières annonces sur les mesures qui étaient prévues concernant la fonction publique, à savoir les 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie, suivi d'une baisse du salaire de 90% le temps de l'arrêt. Ça, je crois que c'est une des choses qui a vraiment stigmatisé la colère de nos collègues. On a le gel du point d'indice qui continue de nous mettre en colère aussi. Dans le premier degré, l'annonce de 4000 suppressions de postes, alors premier et second degré confondus, mais avec plus de 3100 suppressions dans le premier degré, c'est vraiment énorme. L'année dernière, nous avions eu dans le pays moins 650 postes dans le premier degré, ce qui s'était traduit par 26 fermetures de classes dans le département. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on risquerait de perdre si réellement on fermait 3150 postes en France l'année prochaine. Les fermetures de classes ont été vraiment aussi un élément fondateur de ce mouvement qui naît.
Dans notre département, deux manifestations sont actuellement organisées, l'une à Thouars et l'autre à Niort. Le PLUI de l'agglomération du Bocage-Bressuret revisité, une révision dite allégée, mais qui a quand même nécessité 3 ans de travail autour d'Anne-Lise Brouard et des élus. Il s'agit d'intégrer le plan énergie renouvelable au plan local d'urbanisme intercommunal adopté il y a 3 ans. Une étape complémentaire pour ce document qui définit les règles qui encadrent toute construction ou implantation. Claude Pouzin, vice-président de la Côte de Bay.
c'est un travail qu'on a entamé suite à l'approbation du PLUI dans sa forme actuelle, et on avait toujours dit qu'on intégrerait les énergies renouvelables dans ce document. On est sur le point d'aboutir lors de cette réunion allégée. Alors allégée parce qu'elle porte justement sur un seul sujet, et ce sujet c'est les énergies renouvelables. Et on veut intégrer un certain nombre de règles dans le PLUI qui rendent opposable du zonage pour développer certains types d'énergie là à certains endroits précis et à d'autres endroits non. Voilà le principe général.
Oui, il s'agit vraiment d'établir ce que le territoire veut pour telle ou telle énergie.
Oui, c'est-à-dire qu'on part de ce qu'on ambitionne à produire et où est-ce qu'on le positionne sur le territoire, d'où l'objet de la cartographie du PLUI qui permet un zonage précis puisque et qui rend opposable les autres secteurs où on ne veut pas le privilégier.
Pour bien comprendre, prenons un exemple précis, celui de l'agrivoltaïsme, l'énergie renouvelable qui donne actuellement le plus de fil à retordre aux élus locaux. Le plan énergie renouvelable prévoit une production de 120 mégawatts crête, ce qui nécessite une surface de 300 à 500 hectares de panneaux photovoltaïques dans les champs. Or, selon les projets connus, ce sont déjà 1200 hectares de projets qui sont dans les cartons sur le territoire. La révision du PLUI vise donc à contrôler le développement et en l'occurrence à le freiner pour préserver le paysage du bocage. Jérôme Baron, également vice-président de l'ACLO 2B, encore au micro de Fabien Gazot.
On a un développement qui est assez important et une pression de la part de développeurs sur le territoire. L'agrivoltaïsme a besoin d'être cadré par rapport à la forte demande que nous avons. Les projets qu'on voit apparaître sont des projets optimisés à l'échelle d'une exploitation donnée et pas forcément à l'échelle du territoire. Notre objectif, c'est quand même d'arriver à des projets de territoire plutôt qu'à des projets de développement d'une structure plutôt que d'une autre.
Donc l'agrivoltaïsme, oui, mais que le bocage reste le bocage et une terre d'élevage. Quoi.
Absolument, on doit prendre notre part dans la production d'énergie renouvelable à partir de l'agrivoltaïsme, mais l'idée c'est quand même de ne pas en prendre trop et du coup de maintenir notre identité, bocage Bressuret. Alors oui, ok pour soutenir les exploitations d'élevage qui rentreront dans ces dimensions, dans ces projets-là, mais pas de n'importe quelle manière et surtout dans une logique de pérennité de nos paysages et de notre territoire de bocage avec des troupeaux pâturants et puis des haies. Donc c'est aussi pour ça qu'on mise sur l'agrivoltaïsme, mais aussi sur des énergies bois, par exemple.
Une réunion publique est programmée mercredi prochain, le 11 décembre à 18h30 à la salle des fêtes de Courlay. Le projet de révision allégée du PLUI doit être arrêté en conseil communautaire le 28 janvier 2025. S'en suivra une phase de procédure sur l'année 2025 avant de finaliser le document début 2026 à la fin de la mandature. 2 600 000 personnes l'ont déjà vu de par le monde depuis sa création il y a 10 ans. Une nouvelle représentation a été donnée à Cerisé mardi après-midi sous les yeux de Jacqueline Pinon.
Mais surtout les 3e et 4e du collège François d'Assise de Cerisé qui ont eu l'opportunité, pour ne pas dire le privilège, d'assister à une représentation de Djihad, la pièce désormais célèbre d'Ismaël Saïdi. Une tragicomédie qui pendant 1h45 raconte le périple de 3 jeunes musulmans apprentis et djihadistes qui partent combattre en Syrie par dépit plus que par conviction, sans qu'aucun d'entre eux n'ait lu le Coran. Une représentation rendue possible à Cerisé grâce à la mobilisation de l'équipe pédagogique et en particulier de Yolaine Adek, prof de français au sein de ce collège privé.
C'est vrai que c'est un projet qui me tenait énormément à cœur. J'ai travaillé dessus pendant 1 an et demi. Fallait arriver à monter ce projet.
Qu'est-ce qui vous a tellement motivé à faire venir ce spectacle-là?
Déjà, la première chose, c'est le fait qu'on soit dans une petite ville et que beaucoup de nos élèves n'aient pas accès à la culture aussi facilement. Et aussi parce qu'on a quand même une communauté variée au centre de la ville de Cerisé, et ça me tenait à cœur de passer ce message du vivre ensemble.
Multiculturel, vous voulez dire.
Multiculturel, exactement. Et c'est important qu'au sein d'un collège, on apprenne à vivre tous ensemble et à partager des valeurs communes. Je pense que la culture, c'est, comme Ismaël Saïdi l'a dit, c'est un bon moyen pour eux d'avoir accès à un message fort et de le vivre ensemble, surtout.
Pas un bruit dans la salle et des applaudissements nourris après la prestation des 3 comédiens sur la scène de la griotte, dont l'auteur belge qui, à l'une des questions d'un des élèves sur l'origine de cette pièce, a répondu, je le cite, « Je me suis demandé pourquoi des gars de mon quartier de Molenbeek, tristement célèbres depuis les séries d'attentats, étaient partis faire le djihad. » Ismaël Saïdi, qui n'a pas non plus oublié cette phrase de Marine Le Pen, « C'est pas grave qu'ils partent, mais surtout qu'ils ne reviennent pas. »
On arrive pendant 1h45 à parler d'un sujet hyper compliqué, hyper inflammable. aimable, hyper polémique, sans rentrer dans des polémiques et avec bienveillance. Et ça a l'air de fonctionner.
En déconstruisant en fait les préjugés, et vous le disiez, cerise sur le gâteau, pour essayer, tenter de nourrir la réflexion.
Oui, oui, parce que je pense, c'est pour ça que moi je parle jamais de théâtre engagé, parce que je pense que c'est une redondance. Je pense que le théâtre au départ c'est ça. Au départ, depuis des siècles, le théâtre, c'est, il y a un sujet, il y a une thématique, on va en parler, on va trouver un chemin détourné pour parler d'un truc tellement compliqué que si on en parlait de manière frontale, ce serait dur. C'est ça le théâtre. Donc du coup, oui, c'est, je vous raconte une histoire, vous rigolez, vous pleurez un peu, et cerise sur le gâteau, si vous rentrez qu'après vous débattez un peu avec vos parents, vos amis, vos profs, bingo. Et puis vous avez vu, pendant le débat, ils étaient hyper chauds, ils voulaient poser des questions. Non, je trouve génial.
Alors ce message universel là, de réussir le vivre ensemble,
bah, c'est la France. Ce pays a comme devise liberté, égalité, fraternité. Et si on arrive à appliquer juste la devise de ce pays, on y arrive en fait.
Le théâtre, dernier espace de parole libre qui existe encore, insistait Ismaël Saïdi, lui qui avec sa pièce va au-delà des barrières culturelles et a offert aux élèves un espace de compréhension qui devrait durablement les marquer et les encourager à bâtir un avenir empreint de compréhension mutuelle.
Merci Jacqueline pour ce reportage sur la représentation de Djihad pour les élèves du collège François d'Assise de Cerisay. C'était mardi dernier. Les chiens de traîneau déboulent au marché de Noël de Thouars ce week-end. Une trentaine de chalets de commerçants vont investir la place Saint-Médard, ainsi que trois food trucks. Une dizaine d'autres chalets animés par des associations caritatives jalonneront la rue Saint-Médard. Précision avec Gaël Pénaud, élu chargé de l'animation et de la vie associative au micro-colline de Dominique Hérault.
Nous retrouverons la maison du Père Noël tenue par l'association des jeunes Thouarsais, les Agités, dans l'ancien magasin Joli Môme, rue Saint-Médard toujours. Et puis tout en haut, devant le cinéma, nous aurons un chalet tenu par le Club des commerçants dans lequel ils tiendront une billetterie pour la nouvelle animation de cette année, entre autres, à savoir un petit parcours de chiens de traîneau. Ils auront un certain parcours dans le centre-ville pour éviter les poneys qui, eux, seront encore une fois présents cette année. Il ne faut pas que les deux se rencontrent. Et ces chiens de traîneau descendront aussi le Père Noël, qui viendra faire une petite balade sur la place Saint-Médard, tout en bas. En plus, cette année, nous aurons la présence de 7 compagnies musicales qui vont se produire pendant tout le week-end. Aussi une nouveauté, c'est un carrousel Place Saint-Médard qui va venir remplacer la patinoire.
Fini donc la patinoire qui aura animé le cœur du Thouarsais ancien pendant 6 ans. On retrouvera également la bourse aux jouets du centre socioculturel, salle Jacques Prévert, pour compléter la haute du Père Noël à moindre coût. Le marché de Noël de Thouars, c'est donc ce samedi 7 décembre de 11h à 20h30 et dimanche 8 de 11 à 18h. Le sport, les meilleurs joueurs de tennis fauteuil se retrouvent cette fin de semaine à Bressuire. Le troisième tournoi national et international a lieu du 6 au 8 décembre au centre régional de tennis, avec d'une part l'Open France qui réunit 16 joueurs. Le tableau A verra s'affronter les joueurs du top 40, le tableau B des joueurs du top 100. Les professionnels, eux, s'affronteront sur un tournoi de gala avec 6 joueurs qui figure dans le top 20 international, avec les Néerlandais Tom Hegebekring, Ruben Spargaren et Michael Schiffer, les Français Gaëtan Mengui et Frédéric Cataneo, et enfin l'Espagnol Daniel Caverzacchi. Tout est réuni pour que le public soit bien présent. C'est la seule incertitude du moment pour Stéphane Kislig, qui s'active avec un noyau dur de 5 personnes étendu à une trentaine de bénévoles le temps du week-end.
Effectivement, dans le tournoi de gala, on va avoir 6 joueurs, 2 joueurs de l'équipe de France, Gaëtan Mengui et Frédéric Cataneo, et 4 joueurs, dont 3 Hollandais, Tom, Ruben et Michael, et aussi un médaillé de bronze, qui est donc Daniel, l'Espagnol. Effectivement, ces 6 joueurs représentent leur pays aux Jeux Olympiques, et ce sont 6 joueurs qui parcourent toute l'année le circuit international.
Donc on est sur ce qui se fait de mieux au niveau mondial, dans un sport très beau à regarder quand on est dans les grades.
Ah, c'est clair, c'est hyper spectaculaire. Pour ceux qui ont vu les JO à la télévision, ou ceux qui ont eu la chance d'aller en Langarose voir le tennis fauteuil, c'est vraiment super spectaculaire. Et quand on voit la qualité des échanges et quelque part l'émotion que peut donner le tennis assis, voilà. Donc concrètement, on vous attend parce que c'est une chance unique dans le Bressuret, dans le nord du département, d'avoir une compétition de ce niveau-là. Donc on attend le public à partir de vendredi à 14h, mais surtout samedi et dimanche matin pour l'ensemble l'ensemble des finales.
Le troisième tournoi national et international a donc lieu vendredi 6 décembre à 14h jusqu'au dimanche 8 à 13h au centre régional de tennis à Bressuire. Gérald Ayaï, invité du deuxième podcast sur Cholet Basket, réalisé avec le concours de nos confrères de Ouest France. Au lendemain de la victoire face au Portel, Gérald Ayaï, l'un des cadres à seulement 23 ans, s'est confié au micro de Julien Hippocrate, Philippe Audouin et François Larue. Un podcast disponible dès à présent sur notre site internet. Deux suspects interpellés suite à cette affaire d'enlèvement en plein centre de Parthenay le 24 novembre dernier en fin d'après-midi. Rappelons qu'un jeune homme de 18 ans avait été pourchassé par deux hommes dont un était armé avant d'être emmené de force dans un véhicule devant de nombreux témoins, victime qui réussira par la suite à échapper à ses ravisseurs. Hier matin, les gendarmes ont interpellé deux hommes qui ont été placés en garde à vue. L'un d'eux, un Niortais d'une quarantaine d'années, sera présenté en tout début d'après-midi aujourd'hui devant le tribunal. Cette affaire serait liée à un trafic de stupéfiants.